De la philo à la philosophie, l'émission qui vous rend plus sage. Lettre 32, émission 32. Que la vie est trop courte pour se laisser distraire.
Les lettres à Lucilius, de Sénèque, 32e lettre. Je me renseigne sur toi et cherche à savoir de tous ceux qui viennent de tes parages ce que tu fais, où et avec qui tu demeures. Tu ne m'en donneras pas à garder. Je suis avec toi. Vis comme si ta conduite devait m'arriver aux oreilles, ou plutôt sous les yeux. Tu demandes ce qui, dans ce que j'entends dire de toi, me réjouit le plus. C'est ce que je n'entends rien dire. C'est que la plupart des personnes que j'interroge ignorent ce que tu fais. Salutaire pratique de ne pas hanter ceux qui sont différents de nous et dont les aspirations s'opposent aux nôtres. Du reste, je m'assure que l'on ne peut te faire dévier et que tu t'en tiendras à ta résolution, quand bien même une foule d'intrigants t'assiégerait. Où veux-je en venir? Je ne crains pas que l'on te change, je crains que l'on ne te gêne. Qui nous arrête en route nous fait déjà bien du tort. Cette vie est si courte, et nous l'abrégeons par notre légèreté, passant coup sur coup avec elle de recommencement en recommencement. Nous morcelons, nous émiettons la vie. Hâte-toi donc, mon bien cher Lucilius. Songe comme tu devrais redoubler de vitesse si tu avais l'ennemi à dos, si tu soupçonnais l'approche d'une cavalerie pourchassant les fuyards. Tu en es là, on te pourchasse. Allons, vite, échappe, et quand tu auras mis ta personne en sûreté, considère sans cesse combien il est beau de parachever sa vie dès avant la mort. Puis, d'attendre avec sérénité le reste de ses jours, sans rien attendre pour soi, installé dans la possession du bonheur, lequel ne s'accroît pas avec la durée. Oh, quand verras-tu ce temps où tu comprendras que le temps ne t'importe en rien, où tu seras tranquille, paisible, indifférent au lendemain, pleinement rassasié de toi-même? Veux-tu savoir ce qui fait que l'homme est avide du futur? Nul ne sait être à soi. Et c'est pour cela que tes parents t'ont souhaité des biens d'une autre sorte. Quant à moi, prenant le contre-pied, je souhaite que tu aies le mépris de toutes ces choses dont ils rêvent pour toi en abondance. Leurs vœux tendent à dépouiller beaucoup d'hommes pour te rendre riche. Tout ce qu'ils te transfèrent sur ta tête, il faudrait le retirer à quelqu'un. Ce que je te souhaite, c'est la libre possession de toi-même. C'est que ton âme, harassée par le vagabondage de sa pensée, arrive à se rasseoir et à se fixer. Qu'elle trouve en soi sa satisfaction et que, dans l'intelligence de ses vrais biens, dont l'intelligence entraîne la possession, elle n'ait pas besoin d'un surcroît d'années. Vraiment, il s'est mis au-dessus des nécessités, il a fini de servir, il est libre, celui-là qui vit sa vie achevée. Porte-toi bien. Bon nombre de personnes que nous allons rencontrer dans notre existence seront imperméables aux principes portés par la philosophie. Ne perdons pas notre temps à essayer de les changer, ou même de parler avec elles. Allons même jusqu'à les éviter, et quand elles se massent autour de nous pour tenter de nous convaincre de revenir dans les ténèbres de la caverne, chassons-les sans ménagement. Les philosophes des temps anciens avaient un bâton pour de bonnes raisons autres que celles de trouver un appui pendant leur marche quotidienne. Ces gens ne nous apporteront rien d'autre que de la fatigue par leurs paroles stériles et leurs illusions. Nous ne pouvons rien leur offrir non plus, si ce n'est un silence embarrassé après leurs élucubrations dont l'intelligence rachitique ne contente personne d'autre qu'elle-même. Nous le savons depuis la première lettre que Sénèque a envoyée à Lucilius. Nous sommes mortels, et nous ne passons qu'une toute petite partie de notre vie à bien faire. Rappelons-nous de cela à chaque instant qui s'écoule. La vie est courte, et nous la rendons encore plus courte en gaspillant notre temps pour des choses qui n'ont réellement aucune importance. Servir la société de consommation, penser à notre réputation, vouloir que nos enfants nous surclassent. Tout cela n'est que sottise, et ne peut advenir que si l'on dépouille autrui, ce qui nous conduit donc à l'injustice. La vie est courte au point que nous pouvons mourir d'un instant à l'autre sans avoir conscience. Chaque seconde compte donc pour vivre une existence de vertu, alors que nous faisons les choix qui nous mèneront à la liberté véritable. Tournons notre regard vers nous-mêmes et examinons-nous. Travaillons notre vertu dans le calme, loin de l'agitation du monde, pour revenir enfin à une communion avec notre environnement. Nous prendrons ainsi conscience de son caractère précieux. Nous saurons que le paradis auquel nous aspirons est en fait déjà là, et qu'il ne faut pas grand-chose pour offrir des lendemains meilleurs à celles et ceux qui viendront après nous.
Merci Étienne. Tu nous disais en préalable à cet enregistrement que cette lettre était courte. Pourquoi pour les philosophes c'est plus difficile de, finalement d'être joyeux, de parler de quelque chose de joyeux que de parler de la mort? C'est toujours très long quand on parle de la mort. Et là finalement, quand on parle de la vie qui est courte, qui est pas très optimiste non plus, mais c'est très court.
C'est très court, courte. Ouais. Parce que c'est joyeux au final de parler de la mort. C'est joyeux. En prenant conscience qu'il y a une fin, on savoure d'autant mieux la vie qui est là. Là aussi, pour en parler de quelque chose voilà, dans la culture populaire que beaucoup de gens certainement ont vu, la saison 2 de la série française Bref, qui est une série humoristique. Et dans cette saison 2, il y a toute une partie sur la mort du père du protagoniste qui meurt du cancer. Et l'allégorie qui est faite, c'est qu'il traverse la rue, il y a un camion qui arrive. Et il va se faire écraser par le camion, c'est le cancer. Mmh. Et le camion, en fait, s'arrête à quelques centimètres. Alors, il y a un arrêt du temps, c'est tout le temps où la maladie fait ça, mais c'est inéluctable, il va se faire écraser par le camion. Et le frère du protagoniste amène au père sa glace préférée. Et le père lui dit, mais sachant que voilà, le camion va m'écraser là, qu'est-ce qu'elle est bonne, cette glace. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de la mort. Qu'on le rappelle sans arrêt. Parce que si on n'a pas conscience de ça, on savoure pas la vie.
La conscience de la finitude nous amènerait à mieux vivre.
Ah, bien sûr. C'est-à-dire, là, voilà. On sait que on va mourir. Je vais mourir, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Je ne peux pas le savoir. C'est-à-dire, là, maintenant, voilà. À quoi je désire passer mon temps, le peu de temps que j'ai en fait. Je raisonne là à l'échelle d'un être humain, mais si je raisonne à l'échelle de l'univers, mais je suis un fragment, un atome de temps. C'est là où est le côté terrifiant autant de la vie que de la mort. Nous sommes tellement éphémères.
On en revient toujours à parler de la mort finalement. Hein. Mais cette phrase, c'était que la vie est trop courte pour se laisser distraire. Se laisser distraire, en philosophie, qu'est-ce que ça signifie?
C'est de faire tout ce qui est autre chose que la philosophie. C'est vite vu. Hein.
Ouais.
Là, pareil, c'est ce que Sénèque dit à Lucilius, puisqu'il lui dit depuis le début. C'est-à-dire, là, tu es gouverneur, oui, tu es très puissant, mais en fait, ça t'attire que des problèmes, t'es malheureux. On avait passé là, deux lettres où Lucilius racontait qu'il était en procès avec quelqu'un, qu'il avait très peur de perdre son procès. Sénèque lui dit, mais oui, mais tu l'as voulu, tu es gouverneur, et tu perds ton temps, puis ça te rend malheureux, tu le dis toi-même, t'as peur. Alors que moi qui suis, bon, alors certes en exil, mais philosophe, je m'en fous. C'est-à-dire, les gens peuvent bien me faire tous les procès qu'ils veulent.
Est-ce que cela signifie qu'il faudrait parfois, comme on dit, serrer les poings et les mettre dans ses poches, ou serrer les poings dans ses poches, pour ne rien dire et dire next, on passe à autre chose?
Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est une fausse image qu'on a de la philosophie, en particulier du stoïcisme.
D'accord.
Le stoïcisme, c'est une révolte. C'est une révolte complète, mais comme toute la philosophie. C'est un cri de révolte qui transperce ça. Non, le stoïcisme, c'est de dire « Je ne joue plus à votre jeu. Moi, j'en ai un, Il y a des règles, je vous les apprends, si vous voulez. Si vous avez envie, je vous force pas. C'est exactement là aussi ce que nous dit Sénèque. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui vont venir nous parler, de nous dire « Mais non, mais fais pas comme l'autre fou furieux là, qui vit à l'écart du monde, sois gouverneur, c'est très très bien. Oui, il y a des problèmes, mais t'as du pouvoir. Le gars qui t'a fait un procès, tu pourras te venger si tu le souhaites. » Et tout ça, ça sert à rien. C'est futile. Au moment où je vais rendre mon dernier souffle, j'aurais peut-être été chef d'État, etc. J'aurais pu déclencher des guerres, en arrêter. À quoi ça a servi ? À rien. C'est de tout recommence.
Oui, mais on en revient à cette question. Je pense qu'on a déjà débattu sur... Mais je meurs en ayant quand même l'impression que j'ai fait ce que j'aimais faire.
Ah, mais est-ce que j'aimais vraiment le faire ? Ou est-ce que parce que je l'ai appris, parce qu'on me l'a appris ? Là, c'est aussi ce que dit Sénèque. Hein. Il dit, oui, Lucilius, tes parents t'ont poussé à devenir gouverneur. Ils ont fait des pieds et des mains en termes d'influence pour que tu le deviennes. Il dit, moi, je vais faire l'inverse. Et tout ça, non, sors de là. C'est bien avec moi, tu vas voir, on est beaucoup mieux. Et ça aussi, c'est toute la philosophie, mais la vraie joie, elle est là. C'est la joie frugale, la philosophie. C'est pas la joie de l'excès, qui est une joie triste où il en faut toujours plus. Quand on a fait une orgie, on les a toutes faites. C'est exactement ça.
N'y aurait-il que la philosophie pour nous sauver ?
Ah oui ? Oui. Oui.
C'est clair.
Alors là, c'est le philosophe qui répond, donc forcément, je prêche pour ma chapelle. Hein. Après, peut-être qu'un poète dirait, il n'y a que la poésie, tout le monde trouve midi à sa porte. Hein. Après, la philosophie a aussi cette force d'être plurielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les stoïciens, et on parle bien des stoïciens, on ne parle pas du stoïcisme. On parle de l'épicurisme, on parle de Platon, on parle de plein d'autres. On peut faire là aussi des assemblages, on a le droit en philosophie. On n'est pas obligé d'être dogmatique. Le stoïcisme, c'est un canevas entre la philosophie de Platon et la philosophie des cyniques. À nouveau, je reviens à ce qu'on disait dans un épisode précédent, mais sur Friedrich Nietzsche, qui disait bien, il faut faire des canevas de philosophie. On ne peut pas prendre une seule et en faire l'alpha et l'oméga de la philosophie ou de la vérité.
Donc, si on veut être un peu pragmatique, terre à terre, je me réveille le matin, je me dis que la vie est trop courte pour que je me laisse distraire. Donc je commence ma journée avec un peu de philosophie ou en me dépouillant de quelque chose d'inutile
Oui, c'est ça, c'est effectivement de se dépouiller de l'inutilité. C'est déjà de réfléchir. Alors là aussi, c'est le prisme stoïcien, on en a déjà souvent parlé, mais là je le répète pour les personnes qui prendraient l'émission à partir de cet épisode. Les stoïciens, ils divisent le monde en trois catégories. Le bien, et le bien, il n'y en a qu'un seul, c'est la vertu. Le mal, c'est tout ce qui est vicieux, donc c'est l'envers de la vertu. Et au milieu, il y a une énorme zone grise qu'ils appellent ce qui est indifférent. Alors cette zone grise, ils la divisent en deux. Il y a les indifférents préférables et les indifférents non préférables. Ça évolue. C'est une zone qui est en constante, qui est en mouvement, qui est en constante évolution. C'est-à-dire que, par exemple, l'emploi, c'est un indifférent. C'est ce que disait Sénèque là, dans une lettre précédente. Le travail salarié, ça doit être un indifférent. Il peut être préférable parce que j'ai besoin de payer mon loyer, j'ai besoin de m'acheter à manger. Mais dans l'idée de Sénèque, c'est-à-dire du stoïcisme, c'est qu'une fois que j'ai payé mon loyer, que j'ai de quoi me nourrir pour le mois, j'arrête de travailler.
Le travail n'est pas un bien.
Non, c'est pas un bien. Le travail philosophique, oui.
Oui. Hein, ben,
là aussi, ce serait un épisode à part pour faire la différence. Et c'est tout ça. C'est-à-dire rien que le matin, déjà, c'est de dire, là, je vais observer ma journée avec ce prisme stoïcien. Et c'est-à-dire que dès que je vais faire des actions pour les autres sans rien attendre en retour, là je suis dans la vertu. Dès que je vais faire des actions égoïstes, où il n'y en a que pour ma gueule, ça va entraîner en plus de la souffrance d'autrui, là je suis dans le vice. Et au milieu, il y a ces indifférents. Et je vais essayer de classer ma journée là-dessus, de voir combien d'actions vertueuses j'ai fait, combien d'indifférents j'ai classé, et combien d'actions vicieuses, si mes actions ont entraîné. Hein, c'est... Là aussi, je peux dire, j'ai juste allé m'acheter un pull parce que j'en ai besoin, il fait froid, mais je l'achète dans une grande marque de prêt-à-porter. C'est fait au Bangladesh, fait par des enfants exploités pour que moi, j'ai pas froid. Et eux, ils sont pieds nus. Donc, c'est vicieux.
On n'est pas en train de se contredire en donnant une recette du bonheur. On est toujours en train de critiquer le développement personnel. Et là, en nous disant qu'il faut faire comme ça, la philosophie, c'est pas un peu du développement personnel ? C'est pas un peu une recette pour être heureux ?
Alors non, c'est pas une recette, c'est ce qu'on disait précédemment, c'est un travail, c'est dur. Une recette, il suffit de la suivre, et normalement on obtient quelque chose justement qui correspond à ce qui est sur la photo. C'est le développement personnel, mais qui est une parodie de philosophie, hein, mm-hmm. Passé par le prisme New Age complètement sordide de la Silicon Valley. La philosophie, c'est dur. Là aussi, hein, j'en reviens à Frédéric Nietzsche, hein, j'y reviens souvent, mais Nietzsche il disait « la philosophie, c'est un élitisme à la portée de tous ». Mais beaucoup d'appelés, peu d'élus à la fin.
C'est aussi un effort constant.
C'est ça, c'est un effort constant, mais c'est ce que va nous dire Sénèque, hein, dans une lettre ultérieure, si mes souvenirs sont bons, où il dit « mais un monde qui serait composé que de philosophes, ce serait affreux, parce qu'on ne pourrait plus faire la différence entre les gens vertueux et les gens vicieux ».
On a besoin donc de cette différence.
C'est ça, il dit bien, Sénèque, que des philosophes, en fait, il y en aura toujours très peu, parce que c'est super dur. C'est un effort constant.
Après, c'est une élite.
Oui. Ah, mais comme je disais hein, dans un épisode précédent, tous les philosophes gréco-romains, à peu d'exceptions près, ce sont des aristocrates. Donc ils ont cette vision. Ils sont prisonniers aussi de ça. Hein. On peut en faire la critique aujourd'hui, hein, puis d'autres philosophes l'ont fait après eux, hein, de cette vision aristocratique du truc. Après, là aussi, c'est que fait cette élite ? Est-ce qu'elle se met au service des autres ou est-ce qu'elle se met au service de son intérêt propre ? Ça, c'est des questions qui ont traversé la Révolution française, justement, quand on s'est posé la question de quelle allait être l'école révolutionnaire. Et le projet qui a été retenu, celui du marquis de Condorcet, ça générait de l'élite, justement. Les révolutionnaires l'ont fait remarquer en disant « oui, cette élite, on vient de s'en débarrasser, c'est pas pour la recréer ». Et Condorcet avait dit « ça posera pas de problème si cette élite se met donc au service des gens plutôt qu'à son service », ce que faisaient les nobles avant. Et là, la question, ça a été, bah oui, mais si elle le fait pas, cette élite, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, Condorcet a pas eu le temps de répondre, il s'est fait guillotiner avant, enfin bon. Mais il y avait un deuxième projet dans l'école de Condorcet qui n'a pas été retenu, c'est l'éducation politique des jeunes adultes. C'est-à-dire que jusqu'à la sortie de l'école, on apprend des choses, on apprend les maths, on apprend le français, l'histoire, mais dès qu'on sort de l'école, et pour toute la vie, c'est ce que disait Condorcet, il faut une éducation politique. Parce que la démocratie, c'est l'un des régimes politiques les plus exigeants. Autant de la part des gouvernés envers les gouvernants que des gouvernants envers les gouvernés. Et cette exigence, ça se travaille.
Une éducation politique, est-ce que c'est une éducation citoyenne ?
Ça va de pair. Parce que le citoyen est actif en politique, en démocratie. Hein. Parce que la définition qu'on donne de la démocratie, c'est toujours le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Non, le peuple, il est citoyen. Parce que si c'est le peuple par le peuple pour le peuple, ça veut dire que des gens qui vivent en France, ils font partie du peuple français à ce moment-là, puisqu'ils vivent là. C'est quelle définition on donne au peuple ? Le citoyen, sa nature est déterminée de façon juridique par des droits et des devoirs. Donc la démocratie, ce sont les citoyens qui sont là. Mais comme on l'a soulevé dans différents épisodes, aujourd'hui, on est clients.
Alors une éducation politique, c'est avoir une éducation au choix.
Au choix, puis aussi de se dire que là, je ne peux pas me contenter de mon rôle de client, je ne suis pas passif. C'est-à-dire que je dois être capable de voir quand mon gouvernant fait une ânerie, de lui signaler, et si jamais, malgré les signalements, il continue à persister dans son ânerie, d'aller le chercher, puis de lui dire « écoute, là mon grand, tu descends de ton piédestal, t'es viré, on te veut plus, et on va refaire une élection là ».
Ça existe dans certains pays, cette façon de demander des comptes à un élu ?
Oui, dans les pays du Nord.
Du Nord, voilà.
Oui, en Suède et autres. Mais en France, le corps citoyen a des aspirations proches des exigences de la Suède. Mais après, une fois que les gens qu'on place au pouvoir, aujourd'hui, la France, elle est au niveau des pays de l'Europe de l'Est, en termes de démocratie. Mais là aussi, parce qu'on est contaminé par l'idéologie capitaliste, et le capitalisme et la démocratie, ce sont des antithèses. Ça, c'est ce que je dis souvent pour taquiner un peu mes audiences quand je suis en conférence ou ailleurs, et qu'on me dit « mais l'entreprise, c'est la liberté », je dis « non, stop ». S'il y a une entreprise qui n'est pas une coopérative, où le patron fait de la démocratie dans son entreprise, il faut me le signaler, je veux aller voir. Hein. C'est une anomalie dans le système. Et ça n'existe pas. Il y a des allures de démocratie. Aujourd'hui, il n'y a plus de chef, hein, c'est fini, mais il y a toujours des gens qui sont là pour jouer les managers et les pères fouetteurs.
Et ces allures de démocratie sont pas louables ?
Ah ben non !
Elles sont fausses ?
Ah ben oui, c'est une illusion. On nous donne l'illusion de la liberté et du choix. Et c'est pareil partout. C'est-à-dire qu'au magasin, j'ai le choix entre 43 marques de yaourt, c'est le même parfum, ça vient de la même usine, mais il y a 43 marques différentes. C'est pareil. Le capitalisme ne sait faire que ça. Et tout système productiviste, d'ailleurs. La quantité prime sur la qualité.
On va vers une élection présidentielle où effectivement on aura un choix de candidat qui est pour l'instant, apparaît comme jamais. C'est aussi une illusion.
Ben, c'est-à-dire que de toute façon, la Ve République est conçue, c'est ce qu'on appelle une démocratie présidentielle, ce qui est un oxymore là aussi, hein, ce sont deux antithèses, qui a été conçue sur mesure pour le général de Gaulle, qu'il avait conçue sur mesure pour le comte de Paris. Puisque l'idée, c'était de recréer une monarchie constitutionnelle, le comte de Paris n'a pas voulu, c'est de Gaulle qui a pris le relais. Là, en plus, c'est bien qu'il y ait du choix, qu'il y ait du choix pluriel. Mais après, ce sont que des vieux bonhommes, bien souvent. Il y a très peu de femmes. Tout le monde est blanc. Tout le monde a fait de hautes études. Ces gens-là, pour la plupart, n'ont jamais travaillé de leur vie. N'ont jamais bossé. À quelques rares exceptions près. Donc, c'est-à-dire que notre vie à nous, ils ne la connaissent pas. Comment ils pourraient gouverner des gens dont ils ne connaissent pas la vie ? Ça ne marche pas. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un désamour aussi de la politique. Parce qu'on est devenu client et qu'on ne veut plus faire d'efforts. Alors qu'être citoyen, c'est faire des efforts. Et aussi parce que, ben, oui, on ne vit pas sur la même planète. Ou dans la même réalité, en tout cas.
Alors, comment ne pas se laisser distraire par ce choix ?
À nouveau, c'est de désapprendre. C'est dur. C'est ça qui demande le travail, qui demande la discipline. De se dire, là, j'ai, dans mon cas, 40 ans, voilà, je ne suis pas philosophe, etc. Je prends conscience soudainement que j'ai loupé ma vie. Que ma vie, on me l'a volée. C'est violent, hein, comme prise de conscience. Ça, c'est extrêmement brutal. C'est pour ça aussi que la philosophie fait... Tout le monde n'y est pas apte. C'est ouvert à tout le monde peut venir, mais tout le monde n'est pas apte à faire le chemin. Et de se rendre compte que j'ai gaspillé mon temps, que je ne le récupérerai pas. Oui, j'ai touché des salaires, parfois même mirobolants, oui, c'est vrai. Est-ce que ça rallonge ma vie ? Non, je vais mourir quand même. Et ce n'est pas au crépuscule de ma vie que je vais me dire, tiens, je vais faire des choses là pour moi, pour aider les gens. Non, c'est trop tard. Ça, c'est ce qu'on a abordé dans les toutes premières lettres. C'est maintenant. Qui compte, c'est quand je suis en pleine disposition de mes moyens, c'est là d'agir. La production est un leurre.
Donc, on ne va pas se laisser distraire. Et si je peux prendre cet exemple de message que j'ai reçu dernièrement, où on me propose quelque chose, et en me disant comme définition, c'est l'occasion de faire une bonne action. Mais j'avais envie de répondre, je te remercie, mais pour moi, c'est tous les jours. Et puis, c'est quoi une bonne action ? C'est justement ne pas se laisser distraire ou...
C'est un bon prémisse à une bonne action. Et à nouveau, la bonne action pour les stoïciens... C'est
très religieux.
Très
catholique.
Mais le christianisme est une philosophie, à la base. Avant de devenir une religion, c'est avant tout une philosophie. Mais comme l'islam aussi, hein, c'est absolument une philosophie. Néanmoins, c'est-à-dire que pour les stoïciens et pour les philosophes gréco-romains en général... Hein, celui ou celle qui n'a pas le souci de l'intérêt général,
voilà.
Ça, c'est vicieux de base. Pourquoi ? Parce que c'est ce que nous dit Sénèque. C'est-à-dire que si j'agis pour le collectif, mais ça retombe sur moi parce que je fais partie du collectif. Donc j'ai tout intérêt à agir pour l'intérêt des gens plutôt que d'agir par égoïsme. On pourrait qualifier ça d'égoïsme de gauche, on va dire, d'égoïsme progressiste. Allez, on va être un peu cynique. De dire que j'ai intérêt à travailler pour les autres parce que ça va me retomber aussi dessus. Alors ça aussi, on peut trouver ça dans certaines... dans certains aspects très misanthropiques de la philosophie, c'est que aussi comme ça, après, les gens nous foutent la paix. On veut voir personne. C'est ce qu'on va retrouver chez Thalès, c'est ce qu'on va retrouver chez Héraclite, qui sont des philosophes présocratiques, qui étaient misanthropes jusqu'au dernier degré, qui voulaient voir personne.
Donc, en fait, on en arrive là où je pensais qu'on allait en arriver, cette notion d'intérêt général qui doit... Donc, quand je réfléchis, quand je pense, quand j'agis, dans le sens de l'intérêt général, je ne me laisse pas distraire.
Ah mais bien sûr, parce que ça aussi c'est du travail, c'est dur. Là aussi où on nous apprend à être égoïste, sans arrêt, à toujours penser à nous et à écraser les autres, à les écarter. De prendre le contre-pied de ça, c'est difficile. Et surtout, tout le monde va venir nous dire « mais ne fais pas ça, mais enfin, mais pourquoi tu donnes du temps voilà, à ces assistés, ces parasites ?» La critique, elle est violente hein, quand on se consacre aux autres. Et là aussi, d'abord, après, dans le travail philosophique, il faut d'abord faire une période où on est tout seul. D'abord, dans un premier temps, pour se désintoxiquer d'abord. Parce que aussi, ça peut être une fuite en avant. C'est de dire, oui, je suis un manager McDonald's crasseux qui exploite ses ouvriers, mais après, je fais du bénévolat dans une ONG et je rachète mes fautes. Non. Alors ça, en philosophie, ça passe pas, ça non plus. Hein. Ça, c'est intolérable. C'est même double punition à la fin.
Et pourtant, les associations caritatives ou autres, on refuse pas cette vitrine qu'on peut offrir à une entreprise d'être le volet social ou le volet bonne action, entre guillemets, de
Bien sûr, mais l'entreprise...
Parce que ça nous arrange bien.
Et oui, mais l'entreprise achète à ce moment-là de l'éthos, de l'éthique. À nouveau, hein, bah, c'est les pubs McDonald's. Oui, on travaille avec des agriculteurs français, etc., voilà. pour de la bonne patate au cadmium, pour en faire de grosses frites bien grasses. Et tout ça, c'est de l'image. C'est les ombres qui dansent sur la caverne, enfin sur le mur de la caverne. Ça, j'y reviens sans arrêt, mais parce que l'analyse de Platon, elle a 2500 ans, mais elle est toujours aussi pertinente. Nous vivons dans un monde d'illusions. Et sortir de l'illusion, accepter de ne plus l'avoir déjà, de ne plus être aveuglé par ça, c'est un premier pas. Mais c'est dur. C'est très dur.
C'est très dur.
Et ça fait peur, ça fout les boules hein, de vouloir sortir de ça.
Quel philosophe pourrait nous aider à justement aller à ne pas se laisser distraire en lecture ou...
C'est au-delà de la lecture. C'est parce qu'on peut lire des tas de philosophes et être juste auditeur libre, en fait. Parce qu'on aime bien, ça fait plaisir, et puis après vivre une vie tout à fait normale. Non, c'est là, au nouveau, j'en reviens sur la discipline. C'est à un moment, je fais le choix de... après, là, pourquoi j'ai choisi l'être à Lucilius ? Parce que justement, c'est tout ce long chemin qu'il y a à faire. Mais après, par exemple, en plus court, on va dire, il y a le livre Walden, du philosophe américain Henry David Thoreau, où il raconte justement que pendant 2 ans et 2 mois, il a vécu tout seul dans les bois, dans une cabane. Alors, pas en étant tout à fait coupé du monde, hein, il allait dans la ville à côté de chez lui. Et c'est un livre qui est très intéressant, parce que, où il dit, voilà, quand j'habitais en ville, personne ne me regardait. Personne ne m'adressait la parole, ou presque. Du moment où je suis allé vivre dans les bois, tout le monde est venu me voir.
D'accord. La curiosité ou...
Oui, la curiosité, puis à nouveau, c'est ce qu'on disait tantôt, hein, dans d'autres épisodes, hein, c'est que quand on refuse de jouer avec les règles du jeu actuel et qu'on va se mettre dans son coin, tout le monde finit par venir voir. Comment ça se fait ? Enfin, pourquoi ? Et pourquoi tu veux pas ? Et qu'est-ce qui se passe ? Toi, t'arrives à vivre dans les bois, à cultiver, voilà, tes haricots, etc. Ben, moi, j'y arriverai pas. Mais c'est dur. C'est un très, très beau livre, Walden.
Pour conclure, ce qu'on se disait avant de commencer cet enregistrement, je te demandais si finalement, bon, la vie est trop courte pour se laisser distraire, mais est-ce que les philosophes, entre guillemets, prennent du bon temps et sont joyeux ?
Ah oui, bien sûr, ils sont joyeux. Alors après, là aussi, la question du rire, chez les philosophes, elle est très complexe. C'est de quoi on rit. C'est quelle doit être l'origine voilà, de cette situation un peu bizarre, voilà, où des fois, oui, voilà, le corps prend des spasmes, fait des bruits bizarres, on pleure, des fois, on se fait même pipi dessus. Y a une espèce de méfiance. Hein, parce que là aussi, le philosophe, il cherche le contrôle de soi, le rire, le contrôle échappe. Alors voilà, de quoi faut-il rire ? Alors les philosophes s'étaient dit, bon déjà, il faut pas rire de l'autre. On ne rit pas des autres. Donc ils faisaient des jeux de mots. Le calembour a été vu comme une espèce de quintessence de l'intelligence, de l'esprit.
C'est un rire permis alors ?
C'est un rire permis, mais il est dit que Platon ne riait jamais.
Ah.
Alors après, là aussi, c'est compliqué de savoir vraiment, parce que Platon, il a été divinisé hein, après sa mort. Donc c'est très très compliqué de faire la part entre le vrai et le faux. Il est dit aussi, pareil, que Pythagore ne riait jamais. Et ça, on retrouve un peu le problème du roman Le Nom de la Rose, hein, d'Umberto Eco, hein, où à un moment, ils se posent la question, où ils ont un débat, le Christ a-t-il ri ou pas ? Et peut-on utiliser le rire pour promouvoir la religion ? Donc, c'est assez compliqué.
C'est un sujet qui n'est pas abordé dans les lettres à Lucilius.
C'est un sujet qui est rapidement abordé, mais qui n'est pas le thème principal,
c'est pas,
non.
C'est pas intéressant.
Y a une anecdote comme ça, entre Aristophane et Socrate. Aristophane, c'est le père de la comédie, c'est l'auteur de théâtre qui conceptualise ça. Et les comédies d'Aristophane, pour les auditrices et les auditeurs les plus anciens qui nous écoutent, c'était les guignols de l'info. Pour faire ça, Aristophane caricaturait les grands noms de la vie athénienne, et c'est donc lui qui représente Socrate dans un nuage à pêcher des idées dans les nuages. Et la première fois où il présente ça, il présente ce sketch, à la fin du spectacle, il y a quelqu'un qui lui dit bah, « Écoute, Socrate veut te voir ». Et là, Aristophane panique un peu en disant « Mais je vais me faire casser la gueule, ça lui était déjà arrivé, c'est terrible, bon, bah, tant pis, quand il faut y aller, il faut y aller ». Et Socrate était apparemment ivre de rire en disant « Non mais écoute, j'ai adoré, tu me remets comme ça, je veux me voir plus souvent ». Et c'est de là d'où vient l'idée que le philosophe pêche des idées dans les nuages. C'est l'héritage d'Aristophane qui a vraiment infusé. Et je pense que oui, voilà, La question du rire, c'est quelque chose de très ambigu. Épictète en parle beaucoup, lui, en revanche. Et il dit bien, oui, on ne peut pas rire de l'autre. On ne se permet pas de rire de l'autre parce qu'on peut le rabaisser, on peut l'humilier, c'est pas le but. Rire, ça doit être une expérience collective et donc le jeu de mots.
Et une question qui me vient en t'écoutant, est-ce que l'art, la littérature, la peinture, etc., peut distraire le philosophe?
Ah oui, ça peut. Oui.
Et c'est autorisé?
Oui et non. Là aussi, c'est oui et non. Là aussi, il y a eu beaucoup de critiques de la philosophie sur le théâtre, sur les drames, la tragédie, etc. Sur les tragédies grecques, on s'en fait une image très galvaudée aujourd'hui, mais c'est d'une violence pas possible. Hein. Aristote avait fait des pamphlets hein, contre la tragédie en disant c'est atroce, ça rend les gens violents. Enfin bon. Donc l'art, oui et non. Parce que ça aussi c'est un détournement puisque ce n'est pas le réel. L'art, on transfigure le réel, on lui donne d'autres choses, on le peuple de créatures fantastiques, on le détourne. En philosophie, on est vraiment ancré dans le là et maintenant. On se réjouirait même, d'une écriture plus naturaliste, d'une description claire du monde.
Que tu n'aimes pas le naturalisme.
Oui, mais ça, c'est mes goûts littéraires, ça. Ça, c'est encore autre chose. Non, oui, j'ai un grand désamour pour les écrivains naturalistes. Mais en fait, non pas sur le naturalisme en lui-même, mais sur la manière dont ils écrivaient. C'était des romans feuilletons. Et en fait, ce que les journaux demandaient, c'était tant de chapitres. Ils n'avaient pas assez de grains à moudre. Donc on se tape des descriptions à rallonge, c'est atroce. Non, c'est pas possible. Après, ça peut avoir son intérêt. Que ce soit dans Madame Bovary ou Un roi sans divertissement, ça a un intérêt narratif. On s'emmerde en même temps que le personnage principal.
En philosophie, on ne s'ennuie pas.
Quand on a les mots-clés, parce que là aussi, la philosophie, c'est hermétique. Il y a une initiation. Donc oui, c'est dur. Une fois qu'on a les mots-clés, ça va. Mais bon, il faut un maître pour nous aider à décrypter ça. Hein.
Merci Étienne pour cette nouvelle émission. J'espère que Anne-Rose, qui est à la technique, nous trouvera une chanson vive et gaie pour finir.